Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Une proposition de renommer un pont de Bordeaux en France au nom de Václav Havel. Les bougies honorant la mémoire de Václav Havel, place Venceslas, seront retirées en raison de la Saint-Sylvestre. Et puis du football avec un défenseur du Victoria Plzeň contrôlé positif. En hommage à la personnalité exemplaire et emblématique de l'ancien président tchécoslovaque et tchèque récemment décédé, Michel Delaunay, député de la Gironde, propose au président de la communauté urbaine de Bordeaux, Vincent Feltès, et au maire de Bordeaux que le pont Bacalan-Bastide porte le nom de Václav Havel. Après le décès de l'ancien dissident devenu président, Gdansk en Pologne, symbole de la résistance anticommuniste, a déjà décidé de renommer une rue de la ville au nom de Václav Havel. Rappelons que le débat en ce moment en République tchèque est de savoir si, oui ou non, il faut nommer l'aéroport international de Prague, aéroport Václav Havel. Les services d'entretien de la ville de Prague ont annoncé qu'ils retireraient les milliers de bougies qui entourent la statue de la Saint-Venceslas au centre de Prague en raison des célébrations du Nouvel An. Fleurs et bougies s'accumulent sur la célèbre place où les gens spontanément affluent pour rendre hommage au président dramaturge. Les autorités pragoises justifient cette décision, arguant que ce lieu de recueillement pourrait être endommagé pendant les fêtes de la Saint-Sylvestre. Le président actuel, le président Václav Klaus, entre dans sa dernière année de mandat en 2012. Son deuxième mandat présidentiel expirera officiellement le 7 mars 2013. Âgé de 70 ans, Václav Klaus est en politique depuis la révolution de velours de 89. Il a déjà fait savoir que la fin de sa présidence ne signifierait pas automatiquement qu'il se retirerait de la vie publique. Sa dernière année en tant que président devrait être marquée par l'adoption du scrutin présidentiel direct. Celui-ci a récemment approuvé par la chambre basse du Parlement et doit encore être soutenu par le Sénat. L'élection présidentielle pourrait alors se dérouler entre le 6 janvier et le 6 février 2013. Václav Klaus a été élu pour la première fois en 2003, succédant à ce poste à Václav Havel. En 2008, il a été réélu en battant l'économiste tchéco-américain Jan Švejnár. Du football avec du dopage, je vous le disais en titre, le Victoria Plzeň a annoncé jeudi que son défenseur David Bistroň avait été contrôlé positif lors d'un match de Ligue des Champions en novembre contre le Baté Borisov. Le club champion de République tchèque a immédiatement demandé aux médecins de l'UEFA l'analyse de l'échantillon B. C'est ce qu'a indiqué le manager général de Plzeň, Adolf Sadek. De son côté, le joueur a formellement écarté la possibilité d'avoir utilisé une substance interdite ou non déclarée. Une affaire à suivre avec les résultats de l'échantillon B. Et puis du football toujours avec le potentiel transfert de Tomáš Rosický d'Arsenal vers le club grec de l'Olympiakos. Rien de sûr pour l'instant, le journal anglais Daily Mirror affirme que le milieu de terrain de 31 ans devrait quitter les Gunners lors du mercato hivernal afin de relancer sa carrière dans un autre club européen. Et l'équipe grecque d'Olympiakos Le Pirée serait très intéressée par les services de Rosický. La météo, une météo assez maussade avec des chutes de neige et de la pluie en République tchèque. Ce week-end s'annonce assez nuageux avec encore de la neige et samedi des températures maximales comprises entre 0 et 5 degrés. Je vous souhaite une très bonne année à l'écoute de Radio Prague. C'était mon dernier bulletin d'info et j'en suis ravi. À très bientôt.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute dernière émission hebdomadaire de l'année 2011. Et merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Dans les derniers faits et événements de l'année, nous évoquerons la baisse positive du nombre de morts sur les routes tchèques. Et puis, on parlera d'une exposition exceptionnelle à la cathédrale Saint-Guy au château de Prague, celle du trésor de Saint-Guy. Nous vous en dirons plus. Bonne écoute de ce programme. La La République tchèque souffre d'un mal qu'elle s'efforce d'endiguer depuis plusieurs années. Nous vous en avons déjà souvent parlé. Elle fait partie des pays d'Europe dont le taux de mortalité sur la route est le plus élevé. Toutefois, une légère inflexion se fait progressivement sentir depuis une dizaine d'années et 2011 est d'ores et déjà une année record en termes de faible mortalité. 695 morts sur les routes tchèques en 2011, c'est encore et toujours trop, mais c'est toutefois un net progrès par rapport à d'autres années particulièrement meurtrières. À titre d'exemple, 1994 avec 1473 morts, 2003 avec 1319 décès sur les routes. La tendance change à partir de 2006 et l'introduction du système de permis à points où le nombre de morts passe sous la barre du millier. Ce taux de mortalité pour l'année 2011 s'avère être le plus faible depuis 1947. Mais évidemment, à cette époque-là, le nombre de véhicules sur les routes était également bien moindre, comme le souligne Leo Strgil, chef de la police routière et des transports.
Podle třeba například počtu vozidel v roce 1950 bylo ve evidenci zhruba.
Si l'on se réfère au chiffre des voitures immatriculées en 1950, on comptait alors environ 128 000 véhicules. Aujourd'hui, c'est environ 4 millions de véhicules.
La vitesse, telle est la raison première des accidents de la route en République tchèque. 42% des personnes décédées auraient ainsi pu rester en vie s'ils avaient respecté les limitations ou si d'autres l'avaient fait. Leo Strgil.
Notre nouvelle stratégie a pour but zéro mort. Théoriquement, nous devrions arriver à zéro décès en 2020, mais évidemment, c'est un peu exagéré.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la baisse du nombre de morts sur les routes, comme le suggère Robert Šťastný, spécialiste de la sécurité routière.
Dans les 5 ans, 10 prochaines années, les résultats de la mortalité routière seront influencés par un parc automobile bien meilleur. Les gens ne circulent aujourd'hui plus dans des voitures qui, lors d'un accident, en ressortent complètement écrasées.
De même, participe de ces chiffres l'amélioration progressive des routes, même si de nombreux progrès sont encore à faire, comme sur la D1, l'axe principal du pays reliant Prague à la principale métropole morave, parfois surnommée les escaliers menant à Brno en raison de son état. Et puis également une plus grande médiatisation des problèmes de sécurité routière. Toutefois, un bémol particulièrement glaçant est à noter quant à ces meilleurs chiffres de la mortalité routière, comme le relève encore Robert Šťastný.
Les soins médicaux ont également une influence. En effet, nombre des statistiques de décès se sont transformées en statistiques de grands blessés.
Moins de morts donc, mais beaucoup plus de grands blessés de la route qui doivent encore ensuite vivre avec les conséquences souvent plus qu'handicapantes de leur accident. En attendant, il faut espérer que le dernier jour de l'année 2011 ne fera pas grimper les statistiques au-dessus de la barre des 700 morts si difficilement atteintes. Pendant 20 ans, le trésor de Saint-Guy, une des plus précieuses collections d'objets de culte en Europe, a été caché dans les coffres-forts de la cathédrale Saint-Guy du château de Prague. Depuis le 16 décembre dernier, le public a de nouveau l'occasion d'admirer les œuvres de cet ensemble unique, exposé dans la chapelle Sainte-Croix, située dans la deuxième cour du château. Václav Richter.
Œuvres d'orfèvrerie, reliquaires, tableaux sur bois, morceaux de textile historique. Au total, 139 objets sont présentés dans la vitrine de la chapelle Sainte-Croix. La collection dans son ensemble compte cependant plus de 400 d'objets. Pour l'exposition actuelle, il a donc fallu choisir. La commissaire de l'exposition, Ivana Kizourova, explique quels ont été les critères de ce choix.
Nous avons choisi les œuvres artisanales de la plus grande qualité conservées dans l'ensemble du trésor de Saint-Guy. Ces œuvres ont été créées pendant une longue période allant du XIe au XXe siècle. Nous avons choisi aussi les objets et les reliquaires liés au saint patron de la cathédrale et du royaume tchèque, saint Venceslas, saint Adalbert et saint Guy. Et nous avons également rappelé le culte de sainte Ludmila qui s'est développé dans le couvent Saint-Georges situé dans le voisinage de la cathédrale.
Qui était développé dans le cloître benedictin de Saint-Jerzy.
Le trésor a déjà été présenté au même endroit entre 1961 et 1990. La sécurité de la collection étant insuffisante, on a finalement décidé de fermer l'exposition et de déposer le trésor dans un endroit plus sûr. Ivana Kizourova présente l'œuvre majeure de cet ensemble.
Nejvzácnější a nejcennější po všech stránkách je určitě zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV.
L'objet le plus précieux de la collection est sans doute la croix reliquaire en or qui a été créée sur l'ordre de l'empereur Charles IV au XIVe siècle et qui était utilisée lors des cérémonies du couronnement. La croix abrite les reliques les plus précieuses que Charles IV a réussi à rassembler lors de ses voyages, c'est-à-dire les reliques liées au martyr de Jésus-Christ.
Ivana Kizourova constate aussi qu'il est très difficile de déterminer la date de la création de ces œuvres, souvent composées d'éléments de diverses époques. Dans cette catégorie d'objets, il y a par exemple l'épée de Saint Venceslas ou l'étendard de Saint Georges.
Le trésor est lié à Saint-Guy parce qu'en 929, le duc Venceslas, futur saint patron de Bohême, a reçu la relique de l'épaule de Saint-Guy de la part du duc de Saxe, Henri Ier. Pour abriter cette relique, il a fait construire une rotonde consacrée à Saint-Guy, rotonde qui a été progressivement élargie jusqu'à devenir la cathédrale Saint-Guy. Et c'est auprès de la cathédrale qu'a été réuni progressivement un trésor d'église.
A při tomto kostele svatého Víta se začal hromadit chrámový poklad.
Déjà pendant le XIe siècle, le trésor a été enrichi d'objets de grande valeur, mais ses œuvres n'allaient pas se conserver jusqu'à nos jours. C'est l'époque de l'empereur Charles IV, au XIVe siècle, qui a considérablement contribué aux richesses du trésor de Saint-Guy. Ivana Kizourova de rappeler que si nous pouvons admirer aujourd'hui ces richesses artistiques et historiques, c'est grâce aux chanoines du chapitre métropolitain qui veillent sur le trésor depuis ses origines. Ils l'ont protégé très intensivement et grâce à leur vigilance, le trésor existe dans sa richesse actuelle, malgré les pertes immenses qu'il a subies, notamment pendant la période des guerres hussites au XVe siècle. Les organisateurs de l'exposition prévoient que le trésor de Saint-Guy sera accessible au public dans la chapelle Sainte-Croix au château de Prague pendant 10 ans.
Voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire en cette fin d'année. Attention sur les routes et puis profitez-en pour aller voir le trésor de Saint-Guy au château de Prague. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette émission. Et dans la rubrique économique de ce vendredi, je vous propose une rediffusion du 14 janvier 2011. Jacques Ferté et Guillaume Roy sont deux jeunes Français qui ont décidé de relancer une marque de bière parisienne qui avait disparu depuis plusieurs décennies. Comme ils ont décidé de faire une bière blonde de type Pils, c'est en République tchèque, berceau de la Pils, qu'ils sont d'abord venus chercher un brasseur. Alexis Rosenzweig avait joint Jacques Ferté pour parler de la renaissance de la Gallia.
Économie, commerce.
Bonjour Jacques Ferté, c'est donc vous avec votre associé qui s'appelle Guillaume Roy qui avait eu l'idée de relancer une marque de bière parisienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire et comment vous est venue cette idée ?
Oui, alors bonjour. Oui, effectivement, on est deux associés, deux jeunes entrepreneurs de 26 et 27 ans, avoir eu l'idée de relancer une ancienne marque de bière parisienne. Donc, en fait, l'idée est venue du fait que Paris n'avait plus de bière, alors qu'il y avait un patrimoine brassicole. Il faut savoir que dans les années 1900, il y avait une dizaine de brasseries à Paris. La plupart étaient d'ailleurs situées dans le 14e arrondissement. Et elles ont toutes disparu à peu près dans les mêmes années, dans les années 50-60. Et on s'est dit, c'est dommage, Paris n'a plus de bière, alors que toutes les capitales européennes ont leur bière, et toutes les régions françaises même, où la plupart ont une bière. Et Paris n'en avait plus, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de relancer le patrimoine brassicole parisien. Et donc on a fait nos recherches. C'était il y a de ça à peu près un an et demi sur les anciennes marques qui existaient. Et on est tombé sur la bière Gallia qui nous a rapidement plu de par son histoire et sa logotype. Et on a rapidement fait connaissance aussi avec le descendant du dernier brasseur de cette bière qui nous a vraiment adoubé, qui a vraiment apprécié notre projet, notre état d'esprit et qui donc a vraiment été très enthousiaste quant au relancement de cette marque de bière. On a donc travaillé voilà, au relancement de la bière et qui a vu le jour il y a à peu près 6 mois. Donc c'est 6 mois la première production de la Galia. Ça fait donc 6 mois qu'on est distribué et vendu à Paris pour l'instant dans une 60aine de points de vente.
Pour cette production, vous avez décidé de faire une pils, c'est bien ça?
Oui, alors rapidement sur l'histoire de la Galia et d'ailleurs des autres bières qui existaient à Paris, c'était souvent des pils. Donc c'était à peu près au début du XXe siècle, c'était vraiment la pils, c'était la bière qui fonctionnait, qui avait été découverte en 1855 en République tchèque. Et c'était une bière qui était assez légère, facile à boire, accessible. Et nous, on s'est dit, comme la Galia était une pils, on va refaire une pils, parce qu'elle correspondait effectivement aux caractéristiques qu'on cherchait, puisqu'on voulait une bière assez accessible et pas forcément quelque chose de trop trop complexe, et d'où le choix de la pils.
Voilà. Et donc vous avez décidé de chercher un brasseur en République tchèque?
Oui, alors l'idée n'est pas venue tout de suite. En fait, on a d'abord fait une recherche auprès des brasseurs français. On a fait tout un tour des brasseries françaises, notamment dans le Nord. Alors déjà, la première question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on l'a fait à Paris? Donc il n'y a plus de brasserie à Paris, donc ça a été rapidement... On est rapidement passé à autre chose. On s'est dit, bon, ouais, pourquoi pas l'Île-de-France. Alors, l'Île-de-France, il y a quelques brasseries, mais c'est toutes des brasseries artisanales qui, donc, ne font pas de pils. Et, du coup, on a fait un petit tour de brasserie en France, notamment dans le Nord, donc, comme je le disais. Et on a découvert des brasseries et le milieu. C'était très... un milieu, d'ailleurs, très, très sympa, très accueillant, très, très, très chaleureux. Malheureusement, il faut déjà des brasseries assez conséquentes pour faire de la pils. Et donc, on s'est dit, en fait, au bout de quelques mois, pourquoi pas aller au pays d'origine de la pils. Parce que c'est vrai qu'au début, comme on avait pas forcément des volumes très conséquents, les brasseurs français n'étaient pas tous forcément partants pour nous faire confiance dès le début. Et du coup, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, pourquoi pas aller au pays d'origine de la pils, là où elle a été inventée et là où elle est toujours fabriquée en masse, puisqu'il faut rappeler que la République tchèque, c'est quand même le premier consommateur de bière au monde. Donc on a été là-bas, on a fait plusieurs voyages, 6-7 voyages, on a rencontré beaucoup de brasseurs, on a ramené beaucoup de bière en France, on a fait des tests consommateurs, et en fonction de ces tests, en fait, on a fait notre choix sur une brasserie indépendante, c'est la brasserie de Nymburk, qui se trouve à peu près à 3 quarts d'heure de Prague, avec qui on travaille donc maintenant depuis 6 mois, mais ça fait un an qu'on l'a découverte, et on est très content de notre relation avec eux, ça se passe très bien, ils font de la bière de qualité, on a vraiment des très bons retours gustatifs sur notre bière, donc on est vraiment satisfait de leur travail, de notre relation et de la qualité du produit.
Alors c'est une brasserie assez connue ici, notamment parce qu'elle est très liée à l'écrivain Bohumil Harabal, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a un savoir-faire, et je crois que la partie importante également était le houblon, un mélange pour votre bière entre un houblon d'origine tchèque qui s'appelle le houblon Jatet, c'est bien ça?
Bien ça. Alors donc notre bière, en fait, elle a vraiment toutes les caractéristiques d'une pils classique tchèque, puisqu'elle est faite avec du malt pilsen. Elle a qu'un seul malt, le malt pilsen, et deux types de houblons, un houblon donc Zatec et un autre houblon, donc deux types de houblons, un pour l'amertume, un pour l'arôme, ce qui en fait une bière assez bien équilibrée et vraiment facile à boire et rafraîchissante. Et effectivement, en plus, on a été content de tomber un petit peu par hasard finalement sur cette brasserie de Nymburk, parce qu'elle aussi avait une histoire intéressante, puisque c'est le père de l'écrivain célèbre Bohumil Harabal, qui était le directeur de la brasserie. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une histoire qui nous a parlé, puisqu'on a par définition bien, en tout cas, les produits ou les projets avec un petit peu d'histoire comme ça intéressante. Et on était très content de en plus de ce petit clin d'œil à l'histoire tchèque.
Et c'était également une question de prix pour venir chercher un brasseur tchèque. C'est intéressant financièrement?
Alors oui, c'est en tout cas pour nos volumes de départ, c'est intéressant, effectivement. Maintenant, il y a aussi une question de transport qui rentre en compte. Mais pour nos petits volumes de départ, il y a une question de prix. Économiquement, c'est effectivement intéressant. Maintenant, ce n'était pas la première raison qui a conduit en tout cas nos choix. Comme je le rappelais, c'était plus pour les caractéristiques de la bière. Mais oui, il y a un aspect économique, ouais, effectivement.
Alors, c'est combien d'hectolitres en ce moment, à l'heure actuelle ?
Ça fait 6 mois qu'on a lancé le projet, donc même si ça marche bien, que c'est un bon départ, ça reste un début. Mais on va plutôt parler en col, et pour l'instant, on a à peu près sorti 25 000 cols, donc des bouteilles de 33 centilitres.
La République tchèque n'est pas encore dans la zone euro. Est-ce que pour vous, entrepreneur, ça peut poser des problèmes, les fluctuations du cours euro, couronne tchèque ?
Pour l'instant, pour être franc, c'est pas encore. On n'a pas fait non plus assez de commandes et on n'a pas non plus un recul assez important pour que ça nous pose un problème directement. C'est bien sûr quelque chose sur lequel on a toujours un regard, un œil, mais c'est pas significatif pour nous dans le sens où c'est encore le début quand même de notre activité.
Quels sont les projets de développement dans l'avenir proche ?
Alors l'avenir proche, c'est d'abord le lancement d'une bière made in Paris, vraiment pour le coup, puisque on va sortir une ambrée qui sera faite en Île-de-France. Prochainement, mais qui sera faite par une des brasseries artisanales dont je parlais tout à l'heure, une des brasseries artisanales qui se trouve en région parisienne et qui va produire donc notre ambrée, mais qui sera une bière complètement différente puisque celle-ci sera une bière non pasteurisée, non filtrée, artisanale, vraiment un produit complètement différent, un autre segment, un des autres canaux de distribution, enfin vraiment quelque chose de complètement différent, mais on voulait quand même un produit en Île-de-France pour la bière parisienne. Ça nous tenait à cœur, ça nous semblait quand même judicieux. Donc voilà, ça sera pour 2011, cette année finalement maintenant. Ça va arriver vite. Et sinon, pourquoi pas d'autres projets d'autres bières, après la Pils, pourquoi pas une bière aromatisée.
Et pour l'instant, vous vous concentrez sur le marché français ?
Oui, on va se concentrer sur le marché français. Alors l'export, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisque c'est vrai que la bière de Paris, elle a pour nous un intérêt à l'export, mais on veut d'abord se concentrer sur Paris pour se créer une notoriété, pour créer une vraie marque bien ancrée sur le marché parisien, avant de s'intéresser à l'export, qui est qui quand même autre chose, qui est une autre paire de manches, quoi.
Et Jacques Ferté, merci beaucoup. Peut-être dernière question, quelle est la bière tchèque que vous avez sûrement dû goûter en nombre qui vous plaît le plus ?
Je voudrais pas trop faire de jaloux, mais c'est vrai, effectivement, on a goûté beaucoup de bières en République tchèque. Il y a énormément de choix. Il y a donc les grosses marques, bien sûr, les Pilsner Urquell, les Staropramen, etc. Krysovice, quelle bière m'a spécialement plu. Moi, j'aime bien les bières assez légères. La Pilsner Urquell est une bonne bière, moi, qui a une amertume intéressante, qui m'a pas mal plu. Mais je trouve qu'il y a une brasserie qui fait des choses intéressantes aussi. C'est la brasserie Primator les bières Primator, qui ont des lagers ambrées qui sont assez intéressantes. Donc, pourquoi pas, à l'avenir, pourquoi pas faire des bières de ce type-là.
Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Et Et voilà, c'est donc la fin de cette dernière émission hebdomadaire de l'année 2011 qui était présentée aujourd'hui pour vous par Anna Kubishta. Samedi, on se retrouve avec un programme spécial Saint-Sylvestre. Je vous proposerai de rencontrer une musicologue française qui s'est intéressée à la musique de Leoš Janáček. Dimanche, Václav Richter vous accueillera dans la nouvelle année 2012 avec une émission entièrement musicale. Je vous la recommande. Et au nom de toute l'équipe de Radio Prague, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2012 et je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine. À bientôt, bon vent, ahoy.